Vous écoutez
RMC. RMC, l'interview.
Apolline de Malherbe.
8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Stanislas Guérini.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. C'est vous qui incarnez le parti présidentiel Renaissance. Vous faisiez partie de ceux qui avaient lancé En Marche. En Marche est donc devenu Renaissance. Renaissance est dans Ensemble. On se souvient bien sûr de cette présentation où vous étiez tous les quatre. Richard Ferrand, François Bayrou, Édouard Philippe. Et vous, vous êtes également ministre de la Transformation et de la Fonction publique et candidat à votre réélection dans la 3e circonscription de Paris. Vous devriez conserver la majorité, mais une majorité fragile, sans doute pas de majorité absolue. Est-ce que vous estimez que c'est une demi-victoire ou il y a un demi-échec ?
Moi, j'estime qu'il y a une bataille à mener pour le deuxième tour. Notre majorité est qualifiée dans plus de 3/4 des circonscriptions. C'est la première force politique dans cette élection. Et donc, il y a un travail de conviction à faire. Nous pouvons avoir demain une majorité solide, loyale, à l'Assemblée nationale pour pouvoir gouverner et pour pouvoir agir utilement pour le pays.
Solide, loyale, mais pas absolue.
Oh ben je crois absolue, si, bien sûr. Dans 3/4 des circonscriptions, nos candidats sont qualifiés au deuxième tour. C'est de loin la force politique qui est la plus présente au deuxième tour. Donc on a ce travail-là à faire pour montrer aux Français à quel point c'est utile d'avoir une majorité derrière le président de la République. Il y a beaucoup de difficultés qui vont nous attendre dans ce quinquennat. Il y a les conséquences de la guerre en Ukraine, une difficulté économique aussi parce que la situation n'est pas facile. Et donc on va devoir répondre d'abord aux urgences, celles du pouvoir d'achat. Et moi je veux qu'il y ait demain, dimanche prochain, une majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir voter des mesures d'urgence pour augmenter le pouvoir d'achat des retraités en réduisant les retraites, pour pouvoir augmenter le pouvoir d'achat des agents de la fonction publique.
On va prendre le temps, Stanislas Guérini, de regarder
agir
ce qu'il y a
utilement pour les Français. J'espère qu'on aura le temps d'en parler.
Ce qu'il y a dans les tuyaux, en effet, sur les questions à la fois financières, économiques, et puis l'âge de départ à la retraite. Mais tout de même, c'est quand même la première fois qu'un président n'obtient pas une consolidation au législatif par rapport au présidentiel.
Nous sommes à la mi-temps. Si non, vous non, me mais permettez cette expression.
Là, c'est factuel. C'est sur le premier tour des élections
législatives. Nous avons largement.
Il n'y a pas de déception chez vous.
Mais non, il y a de la combativité. Non. Pourquoi il y aurait de la déception alors que dans 3/4 des circonscriptions,
à cause de ces chiffres,
nos candidats sont qualifiés et sont dans la bataille pour pouvoir obtenir une majorité. Il n'y a que de la combativité ce matin. Et cette semaine, on sera sur le terrain à aller convaincre parce que effectivement, ce deuxième tour, ça doit être un deuxième tour de clarté.
Vous
bien
y serez...
souvent, nous sommes face aux extrêmes. Ça ne vous a pas échappé. Donc, il y a des projets qui sont extrêmement différents. Et moi, je veux que le deuxième tour puisse se faire dans la clarté, c'est-à-dire avec un projet de la majorité présidentielle utile, une majorité que les Français connaissent aussi, celle qui a permis au pays de résister pendant la crise, et des projets extrêmes.
Dans la clarté, il y a eu un peu de flou hier, on va justement y revenir, mais quand même, je vous prends au mot, vous dites on sera sur le terrain. Est-ce que vous ne regrettez pas que pendant cette... Alors, vous avez l'air de dire que vous ne regrettez rien, mais enfin, tout de même, il y a eu très peu de mobilisation nationale. On a eu à peine Elisabeth Borne sur le terrain, on a eu Emmanuel Macron qui s'est réveillé un peu tard. Non ?
C'est évidemment que non. Évidemment que nos candidats ont été présents sur le terrain.
Non, je ne parle pas
souvent
de vos candidats. Je vous parle notamment d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron.
Les dirigeants de la majorité présidentielle, par ailleurs...
Jean-Luc Mélenchon, il a fait campagne.
Il a fait campagne peut-être un peu plus sur les plateaux télé, puisqu'il n'était lui-même pas candidat. Moi, je préfère avoir une première ministre qui est engagée sur le terrain, qui est engagée dans le deuxième tour de l'élection législative, elle aussi, qui tire la majorité présidentielle et qui va le faire dimanche prochain en remportant une circonscription. C'est ça, être engagé sur le terrain.
Emmanuel Macron, cette semaine, il part.
Ce qui est important aussi, c'est de montrer ce que nous allons faire demain à l'Assemblée nationale. Parce que moi, je veux bien qu'on ait des affrontements de partis politiques.
Là, on parle de la campagne.
Et notre action, là où on doit convaincre les Français, c'est qu'on est engagé pour faire des choses utiles pour le pays. Moi, je ne voudrais pas que 5 ans de travail, que des beaux projets pour notre pays soient mis par terre parce que, dans des circonscriptions, les extrêmes remportent cette élection. Donc, on va se battre, on va mettre toute notre énergie.
Pour gagner, quand vous voyez que Emmanuel Macron choisit précisément cette semaine de campagne pour partir, il a annoncé qu'il serait en Roumanie mardi, en Moldavie mercredi. Est-ce que c'est franchement le moment? Il ne pouvait pas y aller la semaine dernière?
Où
il ne pouvait pas y aller bien avant?
Pourquoi
il va maintenant?
Où sont les enjeux pour notre pays? parce que c'est là où l'intérêt du pays, l'intérêt de la nation, l'intérêt de notre continent l'appelle.
Vous vous dites pas, il va falloir quand même remonter un peu les manches, donc qu'ils viennent avec nous sur le terrain.
C'est ça aussi qu'il faut montrer, peut-être davantage encore, peut-être plus efficacement encore, mais il faut montrer que les enjeux pour notre continent, c'est bien l'indépendance de notre continent et de notre pays. Et c'est ce à quoi Emmanuel Macron s'engage.
Mais ça ne vous paraît pas trop éloigné par rapport aux préoccupations quotidiennes là des Français.
Pardon, mais aller aux côtés des pays de l'Est, s'engager pour trouver des solutions, pour faire en sorte.
Donc il y a une semaine, il y a même 5 jours de campagne et il y en aura 2 où il sera en dehors de la France.
On a essayé de faire ça aussi pendant l'élection présidentielle, en disant au fond, il y aurait la guerre en Ukraine d'un côté, ce serait un sujet, et puis une forme de débat empêché, national, domestique, dans l'élection présidentielle. Mais tout ça est très faux. Tout est évidemment complètement lié. La question centrale qui est posée à notre pays.
C'est tellement lié que c'est une des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron n'a pas fait campagne.
Mais c'est celle de notre indépendance, de notre capacité à bâtir souverainement notre avenir. Et donc c'est pour ça que toutes les grandes questions qui sont entraînées par la guerre en Ukraine précisément, la question de la souveraineté énergétique, la question de la souveraineté alimentaire, la question de la souveraineté économique aussi, ce sont les grandes questions. Et donc que le président de la République soit pleinement engagé sur les grands enjeux pour le pays et sur un projet de stabilité, de cohérence. Nous n'avons pas besoin, Apolline de Malherbe, de rajouter de la crise, des instabilités au grand malheur du monde.
Alors justement, vous le dites, vous êtes face aux extrêmes. On va revenir sur l'évolution hier de votre position sur le deuxième tour en cas de duel avec un RN. Mais d'abord quand même, les candidats de Jean-Luc Mélenchon et Jean-Luc Mélenchon lui-même, depuis hier soir, vous accusent d'avoir un programme caché, de devoir aller trouver 80 milliards puisque vous vous êtes engagé à réduire la part du déficit. Et ils sous-entendent que vous allez augmenter la TVA.
Alors, c'est quand même paradoxal pour un candidat et sa coalition qui porte un programme qui n'est fait que d'augmentation d'impôts et d'augmentation de taxes. S'il y a bien une majorité qui peut être crédible sur le sujet de la baisse des impôts, c'est la nôtre. Dans le quinquennat qui vient de s'achever, 52 milliards de baisse d'impôts. Et on va continuer, Apolline de Malherbe.
Allez-vous augmenter la TVA ?
On va continuer, mais pas une seconde.
Pas une seconde. Vous vous engagez à ne pas augmenter la TVA.
Nous avons dit, dans l'élection présidentielle, pas d'augmentation d'impôts. Et nous avons toujours tenu nos promesses.
Mais alors, comment est-ce que vous allez faire pour obtenir,
je vous pose la question. Je vais vous dire mieux, on va baisser les impôts. On va continuer à baisser les impôts.
Mais alors, comment vous allez faire pour baisser les impôts et trouver 80 milliards ?
On supprimera la redevance de télévision. C'est plusieurs milliards d'euros de pouvoir d'achat en plus pour les Français. On va continuer à baisser les impôts.
Mais vous vous engagez à réduire les déficits.
Pour que les entreprises puissent créer des emplois. Et, dans le même temps, nous allons réduire les déficits.
Mais
c'est quand même un drôle de pays. Pardon.
Je ne comprends pas comment ça marche.
Mais je vais vous expliquer. En créant des emplois, en créant de la croissance, on est quand même dans un drôle de pays où il faudrait venir s'excuser à la radio d'avoir une trajectoire de réduction des déficits et de réduction de la dette. Évidemment et heureusement qu'il y a dans ce pays des formations politiques, des partis de gouvernement, pour dire que, pour la jeunesse du pays, on ne va pas leur faire peser une dette en centaines de milliards d'euros pendant des générations et des générations. Donc, heureusement que je suis devant vous, en vous disant qu'il y a évidemment une trajectoire de déficit,
Peut-être qu'une des raisons, Stanislas Guérini, pour lesquelles la France insoumise et la NUPES projettent des vices cachés ou alors des programmes cachés, c'est qu'on ne sait pas très bien ce qu'est votre programme. Vous avez laissé une sorte de vide. C'est quoi le projet ? Est-ce que vous pourriez me dire ce qu'est le projet de ce second
tour ? C'est celui de M. Mélenchon.
Quel est le projet ? Non mais voilà, moi je vous interroge sur votre projet.
C'est très simple.
C'est quoi votre projet pour le second mandat ?
De pouvoir bâtir un quinquennat pour le plein emploi. Et c'est comme ça que le plus efficacement possible, nous réduirons les déficits. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? Il faut pouvoir d'abord aider nos entreprises, pas les accabler de taxes, de complexités, aider nos entreprises. C'est ce qu'on a fait dans ce premier quinquennat et nous allons poursuivre. Il y a dans notre pays des impôts de production très importants qui pèsent sur les entreprises, industrielles notamment, celles qui créent beaucoup d'emplois. Eh bien, on va continuer à baisser les impôts. C'est comme ça qu'on a inversé la trajectoire. On détruisait des impôts, on détruisait des emplois industriels dans notre pays. Eh bien, nous avons inversé cette trajectoire-là. On va continuer à faire ça.
Donc, le pitch du deuxième mandat,
c'est... De créer de l'emploi. On a fait la moitié du chemin dans le premier quinquennat. Eh bien, la deuxième moitié du chemin, elle est devant nous. Et pour faire ça, on va continuer à investir sur la formation professionnelle, sur les compétences. Vous voyez bien, en 2017, la campagne, c'était autour du chômage, de cette inversion de courbe qui n'était jamais arrivée dans le quinquennat précédent. Bien maintenant, le sujet, c'est que les entreprises, les petites entreprises, les commerçants, toutes celles et ceux qui nous regardent,
c'est plus les emplois, c'est
ils n'arrivent plus à embaucher. Ils ne trouvent plus de salariés à embaucher. Donc, il faut investir dans les compétences. Donc, on va continuer à faire ça. C'est ça, la stratégie. Et vous pouvez quand même nous faire gré d'une chose. Notre pays est sorti de la crise avec la meilleure croissance
en Europe. Il n'y a plus d'angoisse sur le chômage, on le sent bien, ça n'est plus dans les premières préoccupations des Français, c'est juste.
Pour la troisième année consécutive, le pays en Europe où on vient davantage investir, le plus en Europe, eh bien cette trajectoire-là, cette stratégie-là, mais c'est la bonne stratégie pour notre pays. Et je la défends évidemment à la fois fièrement, parce que ce sont beaucoup de résultats obtenus, mais surtout avec tout mon cœur, pour dire que ça serait une folie aujourd'hui de changer de stratégie, et de se laisser séduire par un programme qui n'est fait que de hausse de taxes, que de dépenses supplémentaires. Quand il y a débat, c'est de savoir si c'est 250 ou 300 milliards de dépenses supplémentaires tous les ans. Comment voulez-vous qu'on crée de la richesse avec un tel programme ? Donc nous, notre stratégie, elle est simple, de la croissance, des emplois, et c'est comme ça, évidemment, et je ne devrais pas m'en excuser, qu'on va réduire les déficits dans le pays et la dette pour les prochaines générations.
Stanislas Guérini, la NUPES conteste les chiffres du ministère de l'Intérieur. Les chiffres qui ont été arrêtés cette nuit par le ministère de l'Intérieur donnent ensemble très légèrement devant, avec 25,75% des voix, et la NUPES juste derrière avec 25,66% des voix. Mais la NUPES vous reproche de ne pas avoir comptabilisé certains scores de candidats affiliés NUPES qu'ils auraient fait sortir de ce score. Ils accusent même Gérald Darmanin d'avoir en quelque sorte magouillé les chiffres.
Oui, là aussi c'est quand même savoureux. J'ai écouté attentivement Jean-Luc Mélenchon hier, sur toutes les antennes, qui nous disait qu'il y avait plus de 500 candidats à la NUPES qualifiés. En réalité, ça sera autour de 400.
Un peu plus de 400, donc, 416.
Je veux bien qu'il vienne nous expliquer qu'on trafique les chiffres. Il est celui qui, hier, vient dire n'importe
donc
quoi.
Donc vous dites qu'ils font, ils le font, on le fait.
Mais
votre réponse, c'est de dire qu'ils magouillent.
Mais absolument pas, il n'y a aucune magouille là-dedans. Les chiffres, ils sont connus, ils ont été publiés circonscription par circonscription. Je rappelle qu'une élection législative, c'est une élection dans chacune des circonscriptions.
Donc, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des candidats affiliés NUPES que vous avez sciemment sortis
si
de,
regardé les chiffres,
de ce chiffre global.
Du ministère de l'Intérieur, il y a même des candidats de ministres, Monsieur Abad, de la majorité, qui pourraient être considérés dans la majorité, dans les chiffres de la majorité, qui ne le sont pas dans les chiffres du ministère de l'Intérieur.
Donc chacun...
Vous voyez bien... C'est une affaire de nuançage, que tout ça est une forme d'enfumage, de volonté systématique de créer la polémique. Surtout, Jean-Luc Mélenchon, il a théorisé ça. Il a dit qu'il faut tout conflictualiser. Bien, si dans notre pays, on pouvait un peu retrouver du calme, un peu retrouver de la rationalité, pour avoir un débat sur les vrais sujets, je crois ceux sur lesquels m'interrogez. Comment est-ce qu'on crée des emplois? Comment est-ce qu'on crée de la richesse pour notre pays? C'est ça qui doit compter, pas les outrances, pas les invectives systématiques, pas la conflictualisation permanente de M. Mélenchon.
Mais je vous prends au mot, vous dites il faudra pouvoir débattre du fond. Jean-Luc Mélenchon a invité hier Elisabeth Borne à débattre avec lui, plateau après plateau, interview après interview, ils le demandent tous. Est-ce qu'Elisabeth Borne va accepter de débattre avec Jean-Luc
Mais
Mélenchon?
Mais avec quelqu'un qui n'est pas candidat à cette élection?
Qui est candidat à être Premier ministre, être chef Premier ministre de cet ensemble qui est arrivé
donc,
au minimum au coup d'un coup
d'avis.
Donc
alors que lui-même n'est pas candidat.
Vous nous dites ce matin qu'Elisabeth Borne ne débattra pas avec Jean-Luc Mélenchon.
Annoncé au nom d'Elisabeth Borne, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, mais je trouve un peu absurde cette volonté-là de mettre en scène une forme de duel de Jean-Luc Mélenchon, alors que lui-même n'est même pas candidat à cette élection.
Vous ne le souhaitez pas, en tout cas.
Il y aura des débats. Je crois que les débats, ils doivent se tenir dans les circonscriptions, sur le terrain, pour éclairer les choses. Parce que la situation, je le disais tout à l'heure, un deuxième tour de clarté.
C'est étrange
c'est
quand même que vous ne saisissiez pas cette occasion.
Mais vous m'interrogez ce matin. Moi, je réponds à vos questions le plus directement possible pour justement montrer la différence qu'il y a entre les projets. Nous avons un projet européen.
Mais est-ce que la meilleure manière de montrer la différence entre les projets, ça n'est pas de débattre?
Monsieur Mélenchon et ses candidats, ils portent un projet qui est un projet d'insoumission aux règles européennes. Ben, vous voyez, moi, je préfère me battre pour faire le salaire minimum en Europe, comme nous l'avons obtenu la semaine dernière, pour obtenir la sortie et l'arrêt des véhicules thermiques en Europe d'ici 2035, comme nous l'avons obtenu la semaine dernière. Ça, c'est le vrai débat. Le débat sur le fond, le débat des idées. Nous, on est pour rester dans l'OTAN. Nous, on est pour livrer des armes aux Ukrainiens. Nous, on est pour investir dans le nucléaire. Nous, on est pour l'Europe. Nous, on est pour défendre les forces de l'ordre et les protéger et les encourager à faire leur mission. C'est l'exact inverse du projet de Jean-Luc Mélenchon. Donc le débat, il a lieu, il doit avoir lieu dans toutes les circonscriptions et il doit se faire dans la clarté.
Il y aura sans doute un groupe assez vaste, malgré tout, des Républicains, même s'il sera moins grand qu'il n'avait jusqu'alors. Vous aurez peut-être besoin d'eux pour venir en appui. Comment vous vivez ça ?
On verra bien. Moi, d'abord, cette semaine, ce qui est devant nous, c'est de nous battre et de convaincre pour obtenir une majorité la plus large possible. Et pour faire ça, on a besoin de rassembler, bien entendu. On a besoin de rassembler toutes les forces républicaines.
En tout cas, vous les imaginez comme des alliés potentiels ? Ils pourraient être des alliés potentiels.
Le gouvernement, au fond. Je pense aux Républicains, je pense à beaucoup de sociodémocrates. Moi, j'en vois beaucoup sur le terrain.
Mais qui seront sans doute moins nombreux à l'Assemblée, sauf que les Républicains auront des députés.
Moi aussi, je viens de la gauche. Moi, je viens aussi du Parti Socialiste. Et comme beaucoup, jamais je ne pourrais me retrouver dans le projet de M. Mélenchon, parce que c'est un projet d'extrême gauche. Et donc, notre première responsabilité, cette semaine, c'est une responsabilité de rassemblement de toutes les forces républicaines, démocrates de notre pays contre les extrêmes. Parce que dans la grande majorité des circonscriptions, il y a des candidats de la majorité face à des candidats de l'extrême, de l'extrême gauche et l'extrême droite. Bien, je pense que ces deux projets sont néfastes pour le pays.
De même nature, ou est-ce qu'il y en a un qui est pire que l'autre ? Ma question, c'est quand il y a RN face à NUPES, finalement, on a eu un peu du mal à comprendre quelle était la position hier. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement les choses, puisque vous dites qu'il faudra de la clarté ?
Mon engagement dans la vie politique, c'est toujours, toujours de combattre l'extrême droite. Donc, il ne doit y avoir aucune ambiguïté. Il y a eu d'ailleurs aucune ambiguïté dès les premières minutes. Non, je vais vous le dire.
La porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, n'a pas voulu répondre même à cette question. Elle était dans une forme de nini après 20h.
Elle a été elle-même dans la plus grande clarté pour dire jamais une voix au Rassemblement national. Voilà notre ligne, Apolline de Malherbe. Jamais une voix au Rassemblement national.
Donc, dans les 58 duels,
je m'engagerai pour que systématiquement les candidats du Rassemblement national soient battus. Mais vous ne pouvez pas m'empêcher non plus de voir que dans la coalition mélenchoniste, il y a une grande hétérogénéité. Il y a des candidats qui n'ont pas toutes
la même nature. En fait, au début, ils ont dit que ce sera au cas par cas.
Et donc, oui.
Et ça,
oui,
finalement, non.
Il y a des projets chez les candidats LFI, chez les candidats mélenchonistes, qui sont des projets, là aussi, dangereux. Donc, je vous dis, pas une voix pour le Rassemblement national, c'est suffisamment clair comme ça, mais ça concerne moins d'une circonscription sur 10, ce dont on est en train de se parler. Dans 9 circonscriptions sur 10,
58 duels, c'est précis.
Toute autre configuration. Moi, ce qui m'importe ce matin, c'est que nous puissions faire face aux extrêmes partout. Et dans plus de 3/4 des circonscriptions, je le disais, la majorité présidentielle, elle est qualifiée dans le plus grand nombre de circonscriptions en France, et nettement, et de loin. Moi, je veux bien qu'on puisse débattre de l'affichage national en nombre de voix, des scores des uns et des autres. Ce qui compte, c'est le deuxième tour qui va se passer dans les différents.
Vous aviez 15 ministres qui étaient également candidats. C'est d'ailleurs votre cas. Vous êtes au second tour. Vous êtes d'ailleurs tous au second tour. Mais pour l'instant, vous êtes plutôt en difficulté. Vous arrivez au second tour avec 32,78% des voix. Mais vous êtes derrière la candidate de la NUPES qui, elle, fait 37,8% des voix.
Là, je vais rassembler. Je vais rassembler parce que je crois que dans ma circonscription aussi, il y a une majorité pour l'Europe, il y a une majorité pour défendre les entreprises, il y a une majorité pour aider les Ukrainiens en leur envoyant des armes. Ça n'est pas le cas de la coalition mélenchoniste. Et donc je ne crois pas que dans le nord de Paris, dans ma belle circonscription, il y ait une majorité pour ce projet de sortie de l'OTAN, d'insoumission à l'Europe, de sortie du nucléaire, d'attaque systématique et pavlovienne contre les forces de l'ordre. Non. Je ne le crois pas. Et donc, dans ma circonscription aussi, elle sera symbolique d'une certaine manière. Eh bien oui, je vais mobiliser et je vais rassembler pour pouvoir continuer à porter un projet de progrès, parce qu'il y a beaucoup de progrès
comme,
à apporter dans
comme
le prochain
quinquennat. Comme les autres, Stanislas Guérini, comme Amélie Montchalin, par exemple, qui est en difficulté, si vous n'êtes pas élu dimanche prochain, vous quitterez le gouvernement ?
Mais moi, je me soumets extrêmement volontiers à cette règle-là. Vous savez, il n'y a rien de plus beau dans la vie politique que de se soumettre au suffrage des électeurs. Et donc, évidemment, je m'en remets totalement aux électeurs. Mais je vais me battre. et on va gagner. Et dans beaucoup de circonscriptions, on va gagner parce qu'on croit dans le projet qui est le nôtre. Vous savez, moi, quand je me suis engagé dans la vie politique, je n'y étais pas il y a 6 ans. J'étais chef d'entreprise, j'ai créé une PME, là aussi pour créer des emplois. Mais je me suis engagé sincèrement. Et cette sincérité-là, de réussite pour le pays, de belles avancées sociales, de progrès sociaux, bien, je continue de la porter absolument, pleinement. Et vous pouvez compter sur moi, cette semaine-là, pour matin, midi et soir, aller convaincre les électeurs de nous rassembler pour porter ce projet européen auquel je crois, et de porter des progrès sociaux.
Et Stanislas Guérini qui voulait donc terminer sur le mot de progrès. Vous êtes ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, candidat dans la 3e circonscription de Paris, et vous êtes le patron de Renaissance, le parti présidentiel. Merci à vous d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.